à voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Daniel Cordier. Ce soir, le temps de l'action.
Bonjour Daniel Cordier.
Bonjour.
Alors nous nous sommes quittés hier, vous arriviez en Angleterre, dans ces émissions sur les vies de Daniel Cordier. Hier, le temps des engagements. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Et nous entrons dans la partie la plus forte de votre jeune existence, puisque vous venez de quitter la France, vous arrivez en Angleterre, et va s'engager pour vous une période de votre vie de 3-4 ans extraordinairement riche, dans laquelle vous avez joué un rôle décisif. En Angleterre, vous êtes très vite dirigé vers des camps d'entraînement. C'est aussi la rencontre avec De Gaulle, Daniel Cordier.
C'est drôle, parce que il est venu nous voir, on nous a rassemblés dans un endroit à Londres où nous étions quelques milliers avec la Légion étrangère et puis en civil, nous étions des collégiens, comme je vous l'ai dit. Et De Gaulle est venu nous voir le 7 juillet 1940.
Vous aviez pas entendu l'appel du 18 juin ?
Non. Et il est venu, il était très grand, en leggings et tout ça. Et nous étions au bas de cet immeuble qui s'appelle l'Olympia, qui est dans la banlieue de Londres, qui est un immeuble vide en ciment, parce qu'on y fait des foires, des collections pour les antiquités, pour tel produit, etc., etc. Et les Anglais nous l'avaient donné. Nous l'avons gardé pendant 3 ans. Et je me souviendrai toujours, nous formions un nu en civil. Et le général de Gaulle est rentré dans les grandes portes que l'on ouvrait pour les déménagements des gens qui avaient un pavillon, etc. Il y avait des petites portes qui ouvraient dedans. Et le général de Gaulle, tout d'un coup, cette porte s'est ouverte sur le soleil. Il y avait un soleil extraordinaire, mais à l'intérieur, on était à la lumière électrique, c'était assez sombre. Et il y avait un grand personnage qui est rentré, mais comme il était très grand, il s'est baissé pour faire passer avec son képi sur la tête, parce que sinon le képi aurait été rasé. Et puis il s'est redressé, il était avec son officier d'ordonnance. Il est venu devant nous, nous formions un nu, garde à vous. Et il a commandé repos, et il nous a dit quelques mots. Et le premier mot qu'il nous a dit, je ne vous féliciterai pas d'être venu. Vous n'avez fait que votre devoir. Oh, ça alors, c'était un peu fort.
Oui.
Parce que quand même, on était devenu une Bayonne, on était 17, mes parents avaient payé un bateau, etc., etc. Et c'était pas si facile que ça.
Vous aviez 20 ans, vous attendiez des paroles d'espoir.
Pas 20 ans.
Oui, même pas.
Et j'avais 19 ans. Et à ce moment-là,
je ne vous féliciterai pas.
Je ne vous féliciterai pas.
Oui. Ça, c'est. C'était le.
Voilà comment ça a commencé.
Ça commençait mal. Vous avez dit.
Ah, c'est très mal.
Qu'est-ce que je suis venu faire là ?
Qu'est-ce que c'est que ce type-là ? Enfin, je dis, bon. Et à la fin, je suis resté sur place. Tout le monde s'est égaillé, tout ça. On avait vacances pour ce jour-là. Et c'était le samedi, 7 juillet. Et alors, j'ai l'ami avec qui j'étais venu, Marmisol, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que c'est que ce vieux schnock et tout ça ? Enfin bon, il se rend pas compte. Mais il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise ? Il te dit, vous êtes venu, Mais on va se battre ensemble, ça sera long, on voyagerait beaucoup, et à la fin, nous gagnerons. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? J'étais hors de moi.
Mais alors, dans toute cette période, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les rencontres que vous avez faites, peu à peu, toutes vos convictions, celles dont on a parlé hier, vont être mises en cause. Vous rencontrez Raymond Aron, par hasard, dans
oui,
un camp.
Oui, tout à fait par hasard.
On vous dit c'est un juif, et là, ça vous trouble aussi.
Ah non, mais là, oui, alors ça, c'était très intéressant, parce que j'étais antisémite, tout à fait féroce. Mais quand un de mes camarades m'a dit, mais bon, je dis, oh, j'ai vu Aron, tout ça.
Aron, à l'époque, il n'était pas connu du tout. C'était un.
Pas du tout, inconnu. Il était professeur à Bordeaux.
Professeur à Bordeaux. Oui.
Et il avait, je crois, 35 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et il avait été extraordinairement séduit. C'est un type très intelligent, très gentil, qui posait des questions. Il disait, mais où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? Quand est-ce que vous avez... Il était très curieux des autres. Et puis, lui, il disait quelque chose. Et au début, bon, j'hésitais, mais en l'écoutant, j'étais séduit tout de suite. Et l'idée que un de mes camarades m'a dit, mais c'est un juif, m'a révolté. Parce que du moment qu'il me plaisait, ce n'était plus un juif. C'est difficile à expliquer, mais enfin, c'est comme ça.
Oui, vous pouvez pas imaginer
non.
Qu'un juif ait cette qualité.
Qu'un juif puisse me plaire. Voilà.
Oui.
Dire des choses suffisamment intelligentes, ouvertes et tout ça. Enfin.
Donc, voilà. ça vous fait déjà, ça ébranle un peu vos. Façon,
non, ça n'ébranle pas.
Ça vous surprend.
Non, je trouvais ça naturel. Non, je n'ai pas. Mais, si vous voulez, quelques mois après, au mois de décembre, il y a le journal France, j'anticipe, qui a fait un article à la gloire de Léon Blum, et j'ai écrit une lettre pour leur dire que c'est une honte, que c'était misérable, qu'on n'était pas pour la défense des Houpins, des choses comme ça, etc. etc. Voilà, ça vous donne un peu leur...
Oui, vous restiez alors tout à fait dans la droite.
Ah oui.
Mais quand même, vous vous posiez des questions sur Maurras. Pourquoi il était resté en France? Pourquoi il soutenait le maréchal Pétain?
Pas encore.
C'est venu après. Alors quand est-ce venu?
Oh, c'est venu... C'est venu un an et demi après.
Ah oui, si tard.
C'est venu beaucoup plus tard. Mais vous savez, on ne parlait pas vraiment politique. Bon, il y avait une unanimité. C'est que tout le monde était contre la République. Donc, ce que je disais était naturel. Ils n'étaient pas pour le roi. Mais imaginez ces jeunes et qui sont venus à Londres. Il n'y a personne qui vient. Il faut comprendre que le 14 juillet, enfin, il faut le rappeler, le 14 juillet, nous ne sommes même pas 3000, mais 3000. Il y a 700 garçons collégiens dont j'étais. Il y a 1000 et quelques hommes de la Légion étrangère qui s'étaient battus en Norvège. Et puis, il y a 700 marins qui avaient notre âge. La Légion de Gaulle, ça n'était pas 3000 hommes dont la moitié n'était pas français pour le 14 juillet. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le 14 juillet, il y a une photo du général de Gaulle qui est toujours reproduite, c'est une des premières et des plus anciennes du général de Gaulle, qui on le voit en train de déposer une gerbe de une couronne de fleurs au pied de la statue de Foch. Et derrière lui, en rang, il y a des hommes qui présentent les armes. Or, ces hommes, c'est la Légion étrangère, parce qu'il n'y avait pas de soldats français. Et donc, ce sont des hommes de la Légion étrangère qui, en uniforme, avec
présentaient les armes.
Et les armes qui venaient, ils venaient de Norvège. Mmh. C'était la partie de la Légion étrangère, et c'est la partie de la Légion étrangère qui a rallié De Gaulle. C'est le colonel Magrin Verderet. Mmh. Et l'autre est rentré en France. Il se haïssait. Donc, la moitié est partie en France et la moitié ralliée De Gaulle. Voilà comment ça a commencé.
Alors, Daniel Cordier, qu'est-ce qui vous a conduit, finalement, à abandonner ou à remettre en cause vos convictions maurrassiennes?
Au mois de novembre 1941, fin novembre, il y a eu une grande réunion où De Gaulle a fait son premier discours politique très très intéressant et tout, où nous sommes allés là-bas, et nous étions la dizaine qui avions choisi de nous engager dans le BCRA pour être parachutés en France. On ne savait pas pourquoi faire.
Le BCRA, c'était les services secrets.
Ce sont les services secrets du général De Gaulle.
Du général De Gaulle.
Et il y avait un officier qui avait une quarantaine d'années, un officier d'aviation, qui, dans l'entraînement des parachutistes, il avait une quarantaine d'années, était tombé sur la tête. Et donc, il avait été un peu secoué. Et on l'a mis au repos chez nous. Et c'est vrai qu'il avait un petit peu quelque chose, parce que tout d'un coup, on était à table avec lui, il se levait, et puis il marchait d'un mur à l'autre, s'arrêtait face au mur en le regardant, et puis tout d'un coup, il venait s'asseoir parmi nous, il reprenait la conversation. Bon, nous ne disions rien. Et un jour, je crois que c'était un samedi, nous étions tous les deux pour dîner, parce que c'était le week-end, l'officier anglais qui s'occupait de faire la liaison avec les Anglais, puisque c'était une école française, c'était les Rothschild qui avaient prêté leur villa au bord de la mer, à côté de leur château, et tout le monde était parti à Londres, enfin, bon. Et nous sommes retrouvés tous les deux à dîner. Il était très gentil. Nous avons parlé, et puis tout d'un coup, évidemment, il avait une quarantaine d'années, c'était un avocat parisien, un grand avocat parisien, il connaissait, enfin bon, il avait le genre de discours que j'attendais de tout le monde, enfin Paris, les hommes d'affaires, les écrivains, là, et bon. Et puis, tout d'un coup, il me dit, mais dites-moi, Cordier, il y a quand même quelque chose qui me surprend. C'est que vous êtes venu auprès du général de Gaulle pour vous battre pour la République. Or, je vois que vous êtes toujours maurrassien, mais vous êtes contre la République et pour rétablir le roi. Alors, qu'est-ce que vous faites ici?
Bonne question.
Il faut que vous choisissez.
Bonne question.
Vous ne pouvez pas être ici parce que nous rétablirons la République. Le général de Gaulle l'a répété. Et alors ça m'a beaucoup frappé. Il faut dire que j'avais pas un esprit très développé. Et deux jours après, dans le cahier, j'avais un cahier où de temps en temps j'écrivais, j'étais amoureux d'une fille que j'avais laissée en France, etc.
Domino.
Et j'ai écrit trois pages sur Maurras pour en finir avec Maurras et lui dire, mais c'est une honte, comment se fait-il que, etc. Mais, comme je n'avais pas d'autre opinion politique, j'ai resté Action française. Mais Maurras, c'était fini.
Oui, alors, Pétain d'abord, Maurras ensuite.
Voilà.
Ça fait beau, ça fait déjà voilà. Pas mal.
Alors c'est pour ça que je voulais vous
oui,
dire
oui,
ça.
Oui, bien sûr.
Mais la politique en France, les opinions politiques, ça n'était pas quelque chose qui nous préoccupait. Enfin, nous n'en parlions pas. Vous savez, dans l'armée, on ne parle pas de politique d'abord. Mais enfin, de temps en temps, entre nous...
Bon. Oui, enfin, il y avait quand même eu les articles sur Blum qui vous avaient déplu.
Ah, ben voilà. Oui, non, mais
il y avait
absolument,
quand même des événements. Oui.
Mais ce sont des... C'est pour ça que je vous cite les quelques événements très oui. rares qui se produisaient, qui oui, oui. m'obligeaient à prendre position.
Oui. Mais... La rencontre avec Aaron, cette discussion avec
absolument.
Cet homme,
voilà,
cet officier... Oui, alors après ces camps d'entraînement, donc là vous arrivez, étant dans les services secrets français, vous êtes parachuté en France, donc, et vous vous retrouvez à Lyon.
Oui.
Et à Lyon, vous y arrivez avec une mission dont vous pensez qu'elle va être celle d'être secrétaire
de
Georges Bidault. Georges Bidault qui était à l'époque...
Il s'occupait de toute la question de la presse. Oula l'avait désigné pour informer Londres de toutes les questions de presse, de tous les articles qui paraissaient dans les journaux de la zone sud et si possible de la zone nord, mais enfin surtout de la zone sud. Et bon, il écrivait des rapports sur la situation politique et puis il envoyait alors par radio et tout ça énormément de télégrammes au jour le jour, pour informer Londres de ce qui se passait en France. Et on m'avait désigné pour être le radio de Georges Bidault.
Et là, on vous dit, vous ne serez pas le radio de Georges Bidault.
Alors, on ne me dit rien du tout.
Vous ne vous dit rien du tout.
Non, on ne me dit rien du tout. Mais quand on arrivait en France, quand on était parachuté de Londres, la première personne qu'on voyait en France, avant tout le monde, et avant celle pour laquelle on travaillait, c'était... Jean Moulin, c'est-à-dire Rex. Je ne connaissais pas du tout son nom, c'était Rex. Et on se présentait à lui, et une fois qu'il nous avait vus, on allait voir Bidault. Pour une raison, c'est que si il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans notre travail, dans notre conduite, dans la manière dont... ce que nous faisions en France, la personne qui avait le pouvoir de nous, je ne veux pas dire le mot punir, mais enfin de nous rappeler à l'ordre ou de nous renvoyer à Londres, c'était Rex. C'était le représentant de la France-Libre.
Et donc, vous ne saviez pas qui c'était ?
Ah, pas du tout. Je ne l'ai su qu'après la guerre. Et donc... Je connaissais son nom de Rex. Et donc, mon camarade Schmitt m'a amené, après le déjeuner, il est dans un appartement qui était un petit peu sur la colline, au-dessus de la mairie.
De Lyon.
Et je me souviendrai toujours, nous sommes rentrés, c'était un très très grand appartement et le salon était immense. Et comme il faisait très très chaud, c'était le mois de fin juillet, les volets étaient clos. Et il y avait un homme qui était assis dans un fauteuil au fond et penché sur une chaise où il y avait des papiers. Et il était en train de lire, de regarder ce qu'il y avait dans ce courrier. Et quand nous avons ouvert la porte pour entrer, il a tourné la tête, il s'est levé et il est venu vers nous. Et mon camarade Schmitt m'a dit, je vous présente et...
Rex ?
Non, mais c'était pas nos noms. Non, c'était oui. pas nos noms. Enfin, et il s'est tourné vers moi très souriant, très gentil, en me disant, j'espère que vous avez fait bon voyage. Il était allé, il était très élégant, mais l'élégant comme on peut être l'été, c'est-à-dire il avait une veste sport, un pantalon gris, mais très très raffiné, très élégant, il était très beau et très gentil. Et il me dit si vous êtes libre à dîner, Il s'attendait à quoi? Enfin, c'est ce que je me suis dit, mais je viens pour, enfin, pour Binot, pour lui, pour être présenté, je suis libre quand ils veulent. Si vous êtes libre à dîner, vous regarderez sur un plan de Lyon et rendez-vous ce soir pour dîner au, je ne sais pas, il m'a donné le nom de ce petit restaurant qui se trouvait près de l'Opéra. Et puis, il m'a tourné le dos, il est parti s'asseoir avec Schmitt et ils se sont mis à travailler. Bon, je lui ai dit, c'est fini et tout ça. Et alors, le soir à 7h, j'étais dans ce restaurant. C'était un tout petit restaurant, très bon. Et je suis arrivé à 7h, il est arrivé quelques minutes après. Il m'a fait changer de place parce que je m'étais assis près de la porte. J'ai ouvert la porte, il y avait juste une table qui était devant. Il était 7h, il n'y avait personne dans le petit bistrot. Et je me suis assis sur la banquette. Il m'a mis sur la chaise et il s'est assis sur la banquette parce que dans la banquette, on voyait la porte, on voyait l'extérieur et tout ça. Et puis...
Cette première rencontre, alors c'est passé... Dans une conversation très simple.
La rencontre, je me souviens, le premier mot qu'il m'a dit, enfin, il m'a présenté le menu, bon, on a choisi ensemble, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez boire de... Alors je ne buvais que de l'eau. Et mais je ne sais pas pourquoi, j'ai dit du Perrier. Parce que d'habitude, je prenais de l'Évian. Pourquoi du Perrier, je ne sais pas. Et tout d'un coup, il s'est récréé, il a dit, ah mais le Perrier, vous savez, c'est très mauvais, parce que c'est de l'eau gazeuse, et pour l'estomac, c'est très mauvais. Je vous déconseille. C'est sur ces premiers mots.
Qu'est née cette aventure incroyable, dans laquelle
oui,
vous avez été
oui. Et alors après il m'a dit, mais...
Travaillez pour moi.
Ah non.
Pas comme ça.
Ça n'a pas commencé comme ça, non. Il m'a fait raconter ma vie, enfin ma vie. mes années de jeunesse, mes quelques études, mais au fond, comme je voyais qu'il écoutait et qu'il était intéressé, je me suis dit, ben, au fond, il doit être d'Action française et ce qui l'intéresse, c'est ça. Les Camelots du Roi, les bagarres, les réunions, la vente de l'Action française, enfin, j'étais très enthousiaste, et lui racontait ça, et lui a commencé à dîner, de temps en temps, il souriait, il était très très gentil. Et puis, quand j'ai terminé, toujours très lentiment, il me dit, mais en vous écoutant, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père qui était de gauche. Ah bon? Non, parce que j'avais pensé qu'il était d'extrême droite et qu'il me faisait raconter ça parce que c'était ses opinions. Et alors il m'a raconté son père qui était conseiller général de Montpellier, etc., etc. Et puis les choses de son enfance, c'était ça. C'était alors par moments, je me disais, mais il m'a parlé de peinture, enfin, il parlait de sa vie, c'est très curieux. Il m'a plus jamais parlé de ça. C'était très curieux. Peut-être que c'était pour faire pendant à ce que je lui avais dit, enfin, pour se situer, lui, clairement. Et à la fin, bon, nous avons dîné, enfin, on est parti, il était vers 11h, quelque chose comme ça. Et puis, il habitait près de la gare. Il habitait au bout d'une rue qui était parallèle au quai. Et quand on est arrivé devant chez lui, il m'a dit, vous regarderez le nom de la rue, regardez le numéro de la rue, et demain matin, je vous attends à 7h, je vous garde comme secrétaire. Il m'a serré la main, il a claqué la porte, et je me suis retrouvé tout seul. J'ai dit, mais secrétaire, mais tout d'un coup, j'étais fou. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas venu pour lui. Je suis venu pour Binot. Et alors, je suis rentré. J'ai dit, les gens que nous avions trouvés qui nous hébergeaient, On avait donné le lit de leur fille et nous couchions à deux avec mon copain qui était père blond, qui avait le même âge que moi, qui était parachuté. Et il sommeillait. Et quand je me suis glissé dans le lit, j'ai vu qu'il ouvrait un œil. Et je lui ai dit, tu sais ce que le patron m'a proposé, c'est d'être dans secrétaire. Et il m'a répondu, sur un ton que je n'oublierai jamais, il m'a dit, oh, ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Et il s'est rendormi. Voilà.
Voilà comment c'est cette grande aventure où vous êtes devenu le secrétaire de Jean Boulin pour évidemment une période courte mais tellement intense. On en parlera demain.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Daniel Cordier. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Frédéric Kérou. Réalisation, Isabelle Huel. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Daniel Cordier.